Avant d'évoquer la figure remarquable et exceptionnelle du Maharal de Prague, Maharal, c'est d'abord une abréviation d'initiale qui est l'initiale de Moreno Rav Lev. Moreno, notre maître, Rabbi Lev. Voilà. C'est Maharal, l'hébreu, c'est consonantique, c'est M, H, R, L. On met des voyelles aussi, pour, sinon que ce soit illisible. D'ailleurs, au passage, l'hébreu est une écriture consonantique. Vous voyez, que des consonnes dans l'hébreu. Bon, je parle cours d'hébreu maintenant. Et les voyelles ne s'écrivent pas. Comme la voix, ça ne s'écrit pas. La voix ne s'écrit pas, les voyelles non plus. Il faut l'écriture latine, grecque, etc., les autres langues, pour écrire et comprendre ce qu'on lit. En hébreu, vous lisez les textes en hébreu, ils sont sans voyelles, et donc c'est la lecture des mots qui permet de savoir si on lit avec telle ou telle voyelle. Je ne vais pas faire ce cours ce soir là-dessus. Alors, avant d'entamer la présentation du Maharal de Prague en trois temps, je voudrais d'avoir un propos, si vous le permettez, en quelques minutes, dire des choses, me semble-t-il, essentielles de ce qu'est le judaïsme. Ce qui n'est pas, très brièvement, malgré les préjugés et les ouï-dires et les opinions diverses qui se présentent souvent à l'esprit d'un non-juif, c'est que le judaïsme apparaît souvent, à tort, comme une religion, voire pour certains comme une spiritualité, voire comme une morale. Il est vrai qu'il y a des éléments religieux, moraux et spirituels dans le judaïsme, mais le judaïsme en tant que tel, depuis l'origine de son existence, n'est pas à proprement parler une religion au même titre que les religions romaines, perses, grecques, ou voire catholiques, ou chrétiennes, de manière générale. Il faut bien comprendre cette chose, parce que sinon on ne sait pas pourquoi la plupart des grands commentaires qui ont été faits de ce texte révélé qu'on appelle la Torah ont été rendus possibles. Je dirai un deux mots tout à l'heure. Alors, il faut dire une chose, c'est que d'un côté, le judaïsme se présente souvent à l'esprit comme, comment dire, un ensemble hétéroclite de courants, de traditions diverses, souvent contraire, mais c'est l'ensemble de ces contradictions qui fait l'existence du judaïsme et des juifs. Vous avez des hyper-religieux et des athées juifs. On peut être extrêmement pratiquant ou non pratiquant. Mais il y a une identité. Cette identité juive, elle est marquée du sceau de l'alliance, de cette alliance qu'on appelle la Berit, qui a été établi entre celui qu'on appelle Dieu, pour simplifier, je dirais Dieu, parce qu'il y a plusieurs noms, pour dire que effectivement c'était cette alliance qui a commencé avec Abraham et qui dont nous sommes aujourd'hui les descendants. Alors, il faut dire une chose encore, c'est que la force de résistance. Lévinas disait que la pensée juive est quelque chose qui résiste à quelque chose. Il a appris de ses maîtres que devant l'ensemble des idéologies, des systèmes de pensée, des religions qu'on appelait naguère le paganisme, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de ce qu'on appelle le monothéisme, eh bien cette manière de résister, c'est ce qui fait l'essentiel de l'existence même du judaïsme. Et je dis ça parce que le Maharal va évoquer ça d'une autre manière que je le présente ici, c'est que l'exercice même de la pensée juive se donne à travers ce qu'on appelle en hébreu le midrash. Alors, c'est un terme hébreu qu'on peut traduire, disons, par le verbe darosh en hébreu veut dire rechercher, enquêter. Mais ces deux verbes en français n'apportent pas grand-chose quand on dit midrash, qui dit beaucoup plus en hébreu que ne le font les langues latines, voire grecques. Il y a un autre verbe qu'on entend souvent, c'est « écoute Israël ». Alors, je reviens à ça, sur ce terme tout à l'heure. C'est que « écouter », c'est à la fois entendre, prêter attention, mais aussi obéir. Autrement dit, il faut comprendre ici que la Bible, la Torah, dans l'esprit d'un juif, n'est pas quelque chose que l'on entend une fois pour toutes. C'est qu'une fois qu'on a entendu quelque chose, on dit toujours « qu'est-ce que tu viens de me dire ?» Et pour, c'est toute la démarche du Midrash d'essayer de comprendre ce que l'autre est en train de me dire. Pourquoi tu as dit ça comme ça ? Et pas autrement. Et toute la démarche de l'interprétation, ce mot sur lequel je reviendrai souvent, de l'interprétation juive qu'on appelle le Midrash, qui va se donner dans le Talmud et dans d'autres formes d'interprétation, eh bien, c'est justement cela. C'est que la parole de Dieu est, lorsqu'elle est donnée, lorsqu'elle est révélée à l'homme, elle, nécessairement, elle doit être interprétée. Qu'est-ce que Dieu, dans cette parole qu'on appelle la Torah, est en train de me dire ? C'est une parole qui est adressée à l'autre. Et donc, quand Dieu parle, il sollicite l'auditeur, il sollicite le lecteur quand on lit un texte, et ce n'est pas moi qui vais solliciter le texte, c'est le texte qui me demande d'être interprété. C'est que l'un des grands maîtres, précisément, de la tradition juive, qui est Rashi, là aussi, ce sont des initiales de son mot, Rabbi Yitzhak, Salomo Yitzhaki, l'un des plus grands, peut-être le plus grand, un des grands maîtres de la tradition commentaire de la Torah, du Talmud, il a tout commenté, quasiment, depuis la Torah, en passant par le Tanakh, l'ensemble de la Bible hébraïque, en passant par le Talmud, ce qui est énorme, c'est immense, eh bien, il nous simplifie la lecture de la Torah, des prophètes, des hagiographes et du Talmud, parce qu'il est celui qui nous donne, de certaine manière, la manière d'interpréter. Et c'est comme s'il dit, le texte dit, il le dit lui-même, d'archénie. En hébreu, ça veut dire interprète-moi. Sollicite-moi pour pouvoir te donner du sens. Or, il faut ajouter encore ce point. Je citerai ici un de ceux qui a introduit le Maharal de Prague, la pensée du Maharal, son œuvre en France, à savoir André Neher, qui était professeur, qui a, inauguré l'Institut d'hébreu à la faculté de Strasbourg, qui ensuite a fait sa montée en Israël et a enseigné après à l'université de Bar-Ilan en Israël, près de Tel Aviv. Il disait ceci, il n'y a pas de pensée juive si cette pensée n'est pas vécue. Ce n'est pas porté par une histoire tendue vers une existence. Fin de citation. Ça veut dire que la pensée juive, il n'y a de pensée d'interprétation que si elle est orientée, dans le sens de vraiment orientée vers une fin, vers une pratique, vers un vécu, vers une existence. C'est pourquoi je dirais, ce que m'a enseigné entre autres Armand Macassis, et de ses maîtres il l'a reçu également, c'est qu'il n'y a pas de pensée si elle n'est pas vécue. La pensée n'est pas abstraite. La pensée juive n'est pas une philosophie, n'est pas une théologie, n'est pas une réflexion conceptuelle. Quand on réfléchit, c'est pour et en vue d'une pratique. Donc c'est dans le vécu, dans l'existence, je vais presque dire que la pensée est une pensée existentielle, parce qu'elle n'a de sens et de prégnance que si elle est l'ordre du vécu. On ne peut pas une pensée abstraite, ce n'est pas une philosophie, il n'y a pas un auteur qui a été interprète de la Torah, des versets de la Torah, des versets de la Bible, sans qu'il y ait quelque part une affinité avec son propre vécu. Il dit ce qu'il pense et ce qu'il vit à travers l'interprétation qu'il donne de telles lettres, de tels mots, de tels versets de la Bible. C'est très important parce que, pour comprendre ce que le Maharal va faire, excusez-moi, c'est que il va d'une certaine manière, contrairement à tout ce qui pouvait être enseigné en dehors du judaïsme par des juifs, à savoir l'interprétation, chrétienne de la Bible qui a été faite, eh bien, souvent et malheureusement, la lecture non juive de la Bible a été une sorte de faire-valoir d'une identité qui n'était pas la sienne. Or, il faut bien comprendre ici, c'est que la démarche de l'interprétation juive dans la tradition juive implique un dialogue. Un dialogue, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec les uns et les autres, c'est un débat constant, une confrontation avec le texte qui fait que précisément, il y a dialogue entre des convictions, entre des croyances qui sont souvent irréductibles. La grande force des maîtres de la tradition juive, quand on voit ce qui se déroule dans le Talmud dont je parlerai de nouveau demain, c'est cette idée que lorsqu'il y a, entre guillemets, une opinion, un avis, une signification, une interprétation qui est donnée, il y a automatiquement une autre qui se présente et qui s'oppose à elle. Alors, il y a une indication parmi une centaine d'autres que je vais donner ici, c'est que la première lettre en hébreu, le texte de la Torah est écrit en hébreu, par laquelle la Torah commence, le texte de la Torah, le premier livre de la Genèse, c'est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, un bête. Nombreux sont ceux qui se posent la question, pourquoi on ne commence pas par la première lettre, Aleph ? Ce qui est normal. On n'a pas commencé l'alphabet avec la deuxième lettre. Et une des raisons, parmi tant d'autres, c'est que le monde, la Torah, elle est révélée sous le mode de la dualité. Sous le mode de la confrontation. Sous le mode de la contestation. Et toute l'histoire, tous les récits qui ont lieu dans la Torah, et puis ensuite, bien sûr, dans l'histoire juive, c'est une histoire de confrontation. Continuellement. Jusqu'à la mort, quelquefois, puisque le meurtre humain, le premier, en tant qu'Aïn et Abel, c'est effectivement un aboutissement de violence à l'égard de l'autre. Et donc, si effectivement la démarche de la tradition juive, du penseur juif, c'est la confrontation, c'est le dialogue dans la contestation, et bien c'est quelque chose qui va se perpétuer dans l'enseignement et aussi, malheureusement, dans les conflits entre personnes. Alors, pour revenir au Maharal, il est celui, avant de faire une petite biographie et dans un deuxième temps, présenter deux lectures, voir comment le Maharal lit un texte reçu de la tradition. Il y a des centaines, j'en prendrai deux. Il est véritablement celui qu'on ne peut pas lire. Je m'entends. Je me rappelle d'une conférence que Raphaël Drey, qui était un professeur de droit à l'université de Saint-Provence, qui malheureusement est décédé l'année dernière, très jeune, et qui a laissé beaucoup d'ouvrages, et lors d'une conférence, justement sur le Maharal qu'il donnait à Strasbourg il y a quelques années, il disait que on peut tout faire avec le Maharal sauf une conférence. Alors, je suis un petit peu dans cette orientation que je vais présenter les choses, parce que présenter le Maharal sur une conférence, c'est littéralement impossible. Il faudrait des années pour le présenter. Alors, ce n'est pas le cas pour ce soir. Au contraire, c'est un auteur qui est d'une richesse telle, comme il disait, qu'il faut le travailler, il faut l'étudier. Et vous savez que l'une des manières d'exister d'un juif qui s'inscrit dans la tradition, c'est l'étude. L'étude. Il n'y a rien qui vaut l'étude. Tous les accomplissements de lois et de règles de comportement sur un plateau de balance sont de l'autre côté de la balance. L'autre plateau, c'est l'étude. L'ensemble des pratiques, des lois, des règles, qu'on appelle mitzvot, d'un côté, et sur l'autre plateau, vous avez l'étude. Vous imaginez le poids que représente l'étude. Et ça, c'est l'activité même des maîtres, des pères, des parents à l'égard des enfants, ou des maîtres à l'égard des élèves, je rappellerai tout à l'heure. Donc, faire un travail avec lui, avec le Maharal, c'est un petit peu ça dont je vais parler. Sinon, on ne comprend pas ce qu'il est en train de dire, on ne comprend pas ce dont il parle, si on ne lit pas avec lui ce qu'il est en train de lire quand il lit un texte. Alors, je vais faire ça un petit peu avec vous tout à l'heure. Donc, ce sera plutôt une sorte d'exercice pratique pour voir qu'à partir de quelques mots, il ouvre le texte, et c'est ce qu'on appelle l'interprétation. Interpréter, c'est créer du sens, c'est ouvrir un texte, de telle sorte que précisément, il ne s'agit pas d'explicare, d'ouvrir un texte, la solution est là toute faite. C'est une ouverture infinie à un texte, parce que ce texte est donné et peut s'interpréter de mille façons. Or, le Maharal, il a sa façon propre de lire, et on le verra comment. Et donc, auparavant, je voudrais toujours encore préciser un point. Cette idée d'interprétation est tellement importante que je voudrais dire, non, il faudrait plusieurs heures pour élucider ce concept qu'on appelle le Midrash, parce que la tradition juive, et je terminerai avec ces propos, c'est une activité d'étude et également de lecture. Tel point que, on évoquait tout à l'heure, Lévinas a fait des lectures talmudiques. Lire, c'est, le mot est très bien, c'est un anagramme du verbe lier. Et c'est à la fois lier et délier. C'est ce travail de l'interprétation qui fait la richesse de la tradition juive. Donc le texte en lui-même, tel qu'il a été donné ou révélé, n'est pas achevé. Il n'existe que par l'interprétation qu'on lui donne. Sinon, il est illisible. Ce n'est pas les données linguistiques, historiques, sociales, sociologiques, psychologiques, psychanalytiques qui permettent d'ouvrir le texte de la Torah. Sans quoi, on aurait ces sciences dites humaines qui permettent précisément de lire un texte de Torah comme on lit n'importe quel autre texte d'une autre culture. Ce n'est pas les sciences dites de l'homme, quoique pour des universitaires, ça nous aide à comprendre une certaine manière de dire en termes modernes ce que la tradition, ce que les maîtres de la tradition nous disent chez nous. Mais quand on ouvre une page de Talmud, quand on ouvre un texte d'interprétation parmi les grands maîtres de la tradition, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas fait d'université, ils n'ont pas fait les sciences dites de l'homme, ils n'ont pas fait ces études de sociologie. Et pourtant, quand on y regarde de près, on est presque tout y est. Mais il suffit de décrypter dans notre langage ce qu'ils sont en train de dire dans leur propre langage. Donc ce qui intéresse la tradition juive à travers ce qu'on appelle le Talmud, à travers le Midrash, c'est que précisément le sens d'un texte, il est tel qu'il s'adresse à l'interprète et au lecteur. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de facteurs occasionnels, personnels, de facteurs psychologiques, des éléments qui sont propres à tel lecteur. Non, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que lorsque la Torah a été donnée, je reviendrai sur ce terme parce que c'est un des aspects que le Maharal va développer, dont je dirai un mot tout à l'heure, c'est que Dieu dit un midrash, dit une interprétation qui a été transmise depuis Moïse, mais ça a été dit par un grand maître qu'on appelle Tanakhuma. Il dit que Dieu n'a conclu une alliance avec Israël qu'en raison de la Torah orale, de l'interprétation. Donc l'alliance n'a de sens, elle n'a été révélée au peuple d'Israël qu'à travers la manière de parler, de dire les choses. C'est très important, parce que comment voulez-vous que nous, êtres humains, juifs ou non-juifs, comprenions quoi que ce soit à la parole de Dieu? Je me défie, n'importe qui, vous ou d'autres, de comprendre ce que Dieu est en train de dire. Alors il y a un grand maître dans la tradition juive, qui est Rabbi Ishmael, qui dit que la Torah s'adresse à des hommes. Elle n'est pas faite pour les anges. Elle n'est pas faite pour des êtres célestes. Elle est faite pour les hommes. Kilshon ben Adam. Elle parle la langue des hommes. Et ça, seul l'homme peut l'entendre. Comment voulez-vous que Dieu, quand il parle, je puisse comprendre ce qu'il dit? Il faut bien qu'il révèle une manière de parler, une manière de dire, que l'homme peut comprendre. Sinon, on se prendrait, passez-moi l'expression, pour Dieu. On serait avant lui. Ah, c'est ce que Dieu avait de l'esprit. Qu'est-ce que j'en sais? Ah, c'est ce que Dieu a voulu dire, mais j'en sais rien. Comment voulez-vous que je sache ce que Dieu avait à l'esprit, si je peux parler ainsi, quand il a dit ce qu'il a dit dans ce qu'on appelle le texte de la Torah? Donc, il ne s'agit pas de comprendre, de mieux comprendre. Il s'agit de comprendre, comme dit Lévinas, autrement. C'est important de le dire parce que ce n'est pas le texte qui doit être compris. Celui qui doit être compris, c'est le lecteur. Il faut qu'il se comprenne, il faut que l'interprète se comprenne dans le texte. Il faut que chaque lecteur se trouve comme s'il y était. Parce que c'est à lui que la Torah est adressée. Il faut qu'il entre dans le texte comme si la parole lui était adressée à lui. Ce n'est pas un texte anonyme. Ce n'est pas un texte qui s'adresse, certes universellement à tous les hommes, au peuple juif en particulier, je dirais tout à l'heure, mais quand un maître s'adresse à des élèves ou un professeur s'adresse à des étudiants, il ne s'adresse pas à tous, mais à chacun en particulier. Et c'est dans l'exacte mesure de la capacité d'écoute de l'élève que le maître s'adresse. Il faut, et on dit de Moïse qu'il avait ce pouvoir extraordinaire, c'est qu'il avait devant lui 600 000 Hébreux, et que lorsqu'il parlait, chacun le recevait à la capacité de son écoute. Chacun avec ses potentialités, avec sa capacité, avec ses données personnelles, était capable d'accueillir, de recueillir les paroles de Moïse quand il enseignait. Selon une expression de Lévinas, justement sur ce point, le pouvoir dire du texte est toujours supérieur au vouloir dire. Il ne s'agit pas de savoir ce que veut dire le texte, mais ce qu'il peut dire. Et quand on comprend ça, on comprend effectivement, dit-il Lévinas, dans chaque mot, il y a un oiseau aux ailes repliées qui attend le souffle du lecteur. C'est une très belle image. Et il a une autre image, l'idée que les lettres de la Torah sont un peu comme les braises d'un feu. Il suffit de souffler dessus pour réanimer les braises. Jamais les textes n'est éteint. Jamais l'interprétation ne s'arrête. Il faut continuer de souffler pour faire jaillir de nouveaux sens, pour faire renouveler la dimension de sens qu'il donne. Donc, j'ajouterai, pour filer la métaphore, sur l'oiseau, n'oubliez pas de monter sur son dos. Sinon, vous ne volerez pas. Essayez de voler comme ça, non. Il faut monter sur le dos de l'oiseau. Ici, ça peut être aussi bien la colombe que l'aigle. Et la colombe, vous savez, c'est un symbole de paix. Et peut-être, dirais-je ici, pour conclure cet avant-propos, que pour comprendre ce que veut dire interpréter un texte de Torah, eh bien, il faut prendre son envol, non pas comme la colombe de Kant, mais monter sur la colombe en vue de, à travers la confrontation, à travers la contestation, à travers la polémique, à travers le dialogue de contestation et d'affrontement entre les maîtres, eh bien, il faut orienter cela vers la paix. D'ailleurs, l'orientation a deux sens. Le sens a deux sens, l'orientation et la signification. C'est intéressant de comprendre que pour ouvrir le texte, il faut savoir l'orienter et lui donner un sens infini. Voilà donc pour cette petite introduction. Alors, pour ce qui concerne maintenant, cette fois-ci, le Maharal, ça me permet de comprendre pourquoi j'ai dit cela. Excusez-moi. C'est que, donc, comme je disais tout à l'heure, une petite biographie semble intéressante. Elle sera brève. Et je prendrai ensuite deux petits passages sur lesquels, me semble-t-il, est important. Parce que parler d'interprétation et de transmission, c'est quelque chose qui me semble essentiel, à la fois pour les juifs et pour les non-juifs. Alors, très brièvement, celui qu'on appelle Maharal, c'est les initiales de Moreno Arav Lev, il s'appelait Judas, fils de Bezalel Maharal, précisément l'acronyme de notre maître, Rav Lev. Lev, c'est en hébreu, c'est le lion, ce qui signifie le lion. Judas, dans la tradition juive, dans la tradition hébraïque, c'est aussi le symbole de Judas, le lion, le lionceau exactement. Et c'est pas par hasard que une de ses œuvres s'appelle Gour Arié, un jeune lionceau. C'est curieux, pas que le mot lui-même qui porte, dont il était le porteur, son nom propre, son patronyme, soit également l'occasion pour lui d'écrire une œuvre qui s'appelle le Gour Arié, qui est l'interprétation, le commentaire qu'il fait de cet autre maître dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Rashi, qui est l'un des plus grands commentateurs, le premier en tout cas, qui a donné une explication, un commentaire exhaustif à la fois, donc je dis, de la Bible, c'est-à-dire la Torah, les cinq livres du Pentateuque, les prophètes et les hagiographes, donc toute la Bible hébraïque, et en même temps l'ensemble du Talmud. Il n'a peut-être pas tout commentaire, après c'est son petit-fils, parce que Rashi est décédé, et son petit-fils, Rashbam, qui a continué. Donc, encore très jeune, excusez-moi, le Maharal a été déjà réputé parce qu'il avait déjà, et on le disait tout à l'heure, une connaissance des sciences de son temps. Au XVIe siècle, il connaissait aussi bien les mathématiques, l'astronomie, il connaissait aussi bien Kepler que Tycho Brahe, à travers un de ses élèves qui s'appelait David Gans, je dirai un mot tout à l'heure. Et à 20 ans, il a été nommé rabbin de Nikolsburg en Moravie. Alors, il a occupé ce poste pendant une vingtaine d'années, et jusqu'à l'âge de 40 ans, donc, après, il est revenu à Prague, et je dirai dans un instant pourquoi. Il était reconnu par son érudition. Il avait une connaissance, on dirait, encyclopédique, à la manière de Pic de la Mirandole, et encore plus, encore, parce qu'il était venu bien plus tard. Mais il est resté un érudit extrêmement discret. Il ne faisait pas part de son érudition, il n'enseignait pas, il faisait des discours en tant que rabbin dans la synagogue, où il a occupé sa fonction de grand rabbin. Et pendant 20 ans, il ne s'est occupé que de ses co-religionnaires, c'est-à-dire qu'il avait sa fonction de rabbin, mais par ailleurs, il n'écrivait pas, il n'avait pas encore la dimension qu'on lui a connue plus tard, à savoir sa grande érudition, il n'a pas encore mise en œuvre dans des ouvrages. D'accord ? Donc, il s'est installé dans cette ville, et jusqu'à la fin de sa vie, enfin, il n'a pas encore mis en place, mis par écrit, tout ce qu'il avait à l'esprit. Il a commencé à écrire sur des feuilles, sur du papier, un certain nombre de notes qu'il avait décidé de rédiger à l'âge de 70 ans. On lui dit tout à l'heure, il est mort à 97 ans, disons que c'est pendant les 20 dernières années, les 27 dernières années, qu'il a commencé à écrire ses notes de travail en tant que tel. Et il est devenu, on l'a invité ensuite à Prague, en Tchécoslovaquie, dans le vieux quartier, où il est devenu le grand rabbin, le chef spirituel de la communauté, jusqu'à la fin de sa vie en 1609. Il est mort, il est né en 1512, donc il avait 97 ans. Alors, il y a une année, et j'insiste là-dessus, qui est une année exceptionnelle parce qu'elle est connue pour deux raisons. C'est l'année 1592. Et c'est une année exceptionnelle parce que c'est l'année où le Maharal a fait sa notoriété a été à son apogée. Il s'est fait un nom parmi, non seulement sa communauté, il était connu comme grand rabbin, mais il a fait son nom chez les non-juifs. Il était l'ami intime d'un des plus grands savants de l'époque qui s'appelait Tycho Brahe et qui était le maître de Kepler. Et donc il connaissait parfaitement les conceptions nouvelles, à la fois celles de Copernic et de Kepler. Il connaissait bien l'astronomie. Et Tycho Brahe et Kepler étaient les amis intimes de l'empereur Rodolphe II de l'époque. Et un jour, ces deux astronomes, ont présenté un jour le Maharal à Rodolphe II d'Habsbourg. Et à ce moment-là, il avait 80 ans. Donc, effectivement, on comprend que cette rencontre a été exceptionnelle. Et on verra, je dirais tout à l'heure, ce qui s'est passé lors de cette rencontre. Et une des histoires qu'on raconte, c'est que Rodolphe II était tellement ébloui par les connaissances qu'avait le Maharal de Prague, qu'il venait souvent le soir en cachette, en douce, chez lui, et il avait des sujets de discussion, aussi bien politiques que philosophiques ou religieuses. Et ça, c'était dit, ça ne se savait pas. Il fallait qu'il vienne de incognito, comme on dit. Alors, cette année 1592 est également symbolique parce que ça marque aussi le centenaire de l'expulsion des Juifs d'Espagne. C'était en 1492. Alors, ce centenaire est important aussi, parce que l'époque où je crois que c'est Galilée, il n'avait même pas encore 30 ans, c'est l'année où il a été nommé professeur de physique à l'université de Padoue, et c'est là que, dans cette grande université de Padoue, il a fait sa grande leçon inaugurale qu'il a fait connaître ensuite au monde européen. Donc, c'est à ce moment-là qu'il a mis en place, il a donné une leçon sur ce qu'il avait reçu de Copernic, à savoir la théorie héliocentrique. 1592, c'est important également pour le Maharal, parce que c'est à ce moment-là qu'il va créer l'une des plus grandes écoles talmudiques qu'on appelle la Yeshiva. C'est là qu'il a commencé à enseigner. C'est là qu'il a, enfin, il a continué à toujours être enseignant. Mais ce bâtiment qu'on appelle la Klaus, qui a devenu après la synagogue, elle a été ravagée par un incendie à un moment donné. Elle a été reconstruite et ça a donné la synagogue Klaus à ce moment-là. Alors on raconte que l'empereur, quand je disais, venait souvent le voir incognito, et le maréchal profitait de cette occasion pour lui demander un service de protection. Parce qu'à l'époque, les Juifs étaient souvent sujets à des polémiques, pas vraiment des pogroms, mais il avait demandé à l'empereur Rodolphe II de protéger la communauté juive chaque fois qu'elle était en danger. Alors, c'est vrai qu'à ce moment-là, on dit, ça fait partie de ces histoires qu'on raconte, le personnage de Maharal est connu, on l'évoquait tout à l'heure, et c'est comme ça qu'il est resté, par cette invention du golem. Je vais dire deux mots tout à l'heure. Alors, c'est vrai que on dit aussi que le Maharal, lors de ses entretiens avec Rodolphe II, avait des visions, lui donnait à voir, notamment qu'il savait, il lui montrait, on ne sait pas trop comment, il n'y avait pas d'hologramme à l'époque, mais il lui montrait dans une vision où existait, qu'il avait un château de plaisance à tel endroit dans la Tchécoslovaquie, et qu'il possédait en dehors de la capitale. Rodolphe II était émerveillé de voir un petit peu tout ça. Bon, ça, c'est des légendes. Hein. Il faisait apparaître, dit-on aussi, devant lui, les 12 fils de Jacob. On raconte aussi qu'il avait des pouvoirs thaumaturgiques. Et tout cela fait partie de ces grandes légendes qui sont entretenues et que l'on retient un peu comme ça, parce qu'on dit le Maharal, il est connu surtout par cette légende du golem dont je dirai un mot dans un instant. Alors, pourquoi le Maharal est-il connu bien plus tard, que son notoriété, c'est vrai, à l'époque, était importante, mais que son œuvre a été déconsidérée, méconnue pendant des décennies. Parce qu'on était attaché trop à sa personne, cette image légendaire de celui qui a construit, qui a élaboré le golem, cette espèce de dôme d'argile dans lequel il aurait, pour protéger la communauté juive, sorte de gardien de la synagogue, gardien de la communauté, c'est un dôme d'argile dans lequel il avait mis dans la bouche un parchemin sur lequel était écrit le mot vérité en hébreu, ou le nom, le tétragramme, le nom de Dieu. Et c'est ça, c'est, dit-il, qui a donné la vie à cet homme fabriqué de glaise et d'argile, qui lui permettait ainsi d'être animé. Alors, on justifie cette idée de la même façon que Dieu a créé l'homme à partir de la terre, de la glaise, et qui lui a insufflé un souffle de vie pour qu'il devienne un être vivant parlant. Et de la même façon, à l'instar de cette élaboration d'un être tiré de la terre, le Maharal aurait donc façonné un être d'argile dans lequel il lui aurait insufflé ou mis dans la bouche comme un souffle le nom divin et lui donnait ainsi une vie. Mais un jour, dit-on, il fallait aussi que ce gardien, cet homme assez gigantesque, qui protégeait la communauté, la synagogue, eh bien, et avant Shabbat, le Maharal devait enlever, c'est là pour qu'il ne fonctionne pas Shabbat. Or, il se trouve qu'un jour, la veille de Shabbat, il l'avait oublié. Et ce monstre, ce golem, qui avait donc toute sa force, et il a commencé à tout détruire. Il a ravagé beaucoup de choses, il a détruit, et on ne pouvait pas l'arrêter. Et jusqu'au moment où, effectivement, là, Maharal, venant voir ce qui se passe, a pu lui enlever la lunette et il l'a détruit de ses propres mains. Voilà, un peu très brièvement, on pourrait donner cette idée hein, aussi, qu'en dehors de cette légende, dont je pourrais encore parler bien sûr plus que ça, il y a une idée importante qu'il faut dégager. Ce n'est pas simplement le fait d'avoir construit une espèce d'homme en argile avec un pouvoir extraordinaire et magique. Non, il faut comprendre derrière cela, il y a quelque chose, c'est l'homme de la Renaissance. C'est le début des automates. c'est celui des hommes, des machines, des robots. Ce n'est pas encore le machine de Descartes, mais c'est celui qui, d'une certaine manière, est animé, qui a un automate, un mouvement par lui-même. C'est-à-dire que, finalement, le Maharal, en avance sur son temps, a déjà mis en place, si on peut dire, l'idée de tous les automates qui viendront se fabriquer, qui est déjà les automates qu'on voyait déjà à Paris, qu'on voyait déjà dans les grandes villes d'Europe, et fabriqués, et puis il y avait l'automate de Vaucanson, il y a effectivement tous les automates qui viendront au 19e et surtout au 21e siècle, dont nous sommes aujourd'hui les contemporains. On dit, certains disent aujourd'hui, à tort ou à raison, que c'est l'ancêtre de la cybernétique. D'automates, bien sûr, avec d'autres configurations, c'est pas l'électronique, c'est le nom de Dieu qu'on met dans un homme et puis qui marche et qui fonctionne tout seul. Alors, pour Tesla, c'est vrai qu'il y a une métaphysique derrière, il y a toujours une considération métaphysique et spirituelle, si on peut dire, derrière cette invention du golem, parce que c'est peut-être le désir que l'homme a de maîtriser la nature, de donner un nouveau souffle, de nous donner un nouveau sens. Alors c'est vrai que quelque part, derrière cette idée qui, à première vue, pouvait être celle d'un protecteur de la communauté qui permettait justement d'empêcher les non-juifs de faire du tort à la communauté juive, il protégeait ainsi la synagogue quand les hommes allaient prier, on mettait un garde devant. Ça se retrouve encore aujourd'hui, pour empêcher précisément les exactions de se produire. Mais derrière cela, disais-je, et c'est dans cette première partie, il y a derrière le golem quelque chose d'important. Il y a toute une pensée d'une philosophie de l'automatisme. Le robot viendrait remplacer l'homme. C'est toute cette idée qui est en préfiguration dans cette invention du golem, quelque chose qui aujourd'hui demanderait à être, bien sûr, réinterprété. Je donne ici une indication, simplement, il faudrait voir pourquoi, déjà, et c'est pour ça qu'on disait l'homme de la Renaissance, celui qui veut nouer un nouveau souffle, celui qui va d'une certaine manière engager un mouvement qui sera celui de la machine qui remplace l'homme. Voilà. C'est celui de l'automate, de celui qui a un mouvement autonome, indépendant de l'être humain. Donc voilà, ça peut donner à penser et ça permet de réfléchir pourquoi il y a déjà eu cette idée, c'est pas par hasard que c'est au XVIe siècle, au moment où on repense complètement la configuration de l'homme. C'est pas l'homme qui est au centre, ça va être la machine. Ça va être celui qui va remplacer l'homme. Et donc, quelque part, cette dimension métaphysique dans la physique, ces différences métaphysique dans la physique, à savoir cette présence de Dieu dans la matière, cette présence de l'esprit dans la matière, est déjà d'une certaine manière présente dans cette configuration du golem telle que pouvait l'entendre le Maharal. Je reviens cette fois-ci à ce qui me semble plus important, à savoir la méthodologie et pourquoi le Maharal va être si important dans la tradition juive. Parce que, pour les raisons suivantes. Alors, j'ai dit tout à l'heure, par allusion, on ne trouve pas chez le Maharal de pensée propre, comme pour l'avoir un philosophe. Vous avez Platon, Aristote, Descartes, Kant, Hegel, ce sont des philosophes. Ils ont produit une œuvre. On reconnaît tel texte parce que c'est tel philosophe. La différence entre un Maharal et un philosophe, c'est que lui n'a pas une pensée propre. Et je vais dire pourquoi. Parce que il va reprendre l'ensemble, ou beaucoup, de récits qu'on appelle Agada en hébreu. Des récits qui ne sont pas liés à des énoncés de loi. Alors, on verra demain, je préciserai, je dis maintenant ici, que le Talmud, qui est le terme générique qui permet, dans lequel on trouve cette somme considérable d'enseignements de rabbins qui se sont étalés sur 8 siècles, entre le 6e siècle avant, 6e siècle avant Jusqu'au 5e siècle après, donc 8 à 9 siècles, Et donc cette transmission s'est faite de maître à élève pendant des générations, jusqu'au jour où effectivement on s'apercevait qu'il y avait tellement d'oubli, tellement d'erreurs, qu'il fallait compiler tout cela, des enseignements qui étaient divers et contradictoires, qui a donné ce qu'on appelle le Talmud. Et dans ce Talmud, c'est l'ensemble d'enseignements de maîtres qui, depuis Moïse, se sont transmis oralement. Eh bien, il y a ce qu'on appelle des lois qui ont été énoncées, mais également d'ensemble de textes qui composent à peu près un tiers de la somme totale de ces ensembles qu'on appelle le Talmud, qu'on appelle les Haggadot. Et le Maharal est celui qui, dans l'histoire, au VIe siècle, a voulu réhabiliter ces textes parce qu'ils étaient souvent perçus comme de légendes, un peu comme de folklore, un peu comme des récits de rabbins sur le plan personnel, comme quelque chose, ou quelque chose qui n'avait pas d'intérêt dans l'immédiate quotidienneté, n'avait pas d'intérêt sur le plan de la pratique. Il fallait savoir comment faire, comment manger kasher, comment se fêter le Shabbat, comment faire les fêtes, mais les récits n'avaient aucun impact dans la vie quotidienne de chaque juif. Et donc ces récits, c'était des, entre guillemets, bien sûr, c'est beaucoup plus que ça, on va voir pourquoi, c'est pas les contes et légendes, voilà, c'est pas tout cela. Mais il y avait quelque chose ici qui était objet de réticence et beaucoup de contestation au regard de ce qu'on appelait, entre guillemets, les rationalistes. Il y avait ce qu'on disait des mystiques, ceux qui, effectivement, ne pensaient la tradition juive qu'à travers des récits qui, issus de la Bible, sont été transmis ainsi par ce qu'on appelle des rabbins qui n'avaient pas d'autre orientation que d'exposer pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme de cette manière, pourquoi et comment s'est fait la sortie d'Égypte. Voilà. De cela, on peut raconter beaucoup de choses, hein, c'est ce qu'on appelle le Midrash, mais c'était mal vu ou mal compris par ceux qui voulaient s'attacher uniquement à l'application des lois et des règles dans la vie quotidienne. Donc, le Maharal est celui qui va introduire, qui va réhabiliter d'une certaine manière tous ces récits qu'on appelle les Haggadot du Talmud, qui constituent au moins un tiers de l'ensemble de ces enseignements du Talmud. Il ne touche pas à la halakha, c'est-à-dire à la loi. Il ne touche pas au problème de la loi. Et pour commenter ces midrashim, ces Haggadot qui sont apparemment relativement simple, souvent naïf, hein, il utilise des concepts qui existent déjà et dont fait déjà état Maïmonide. Eh bien, c'est qu'il fait appel justement non seulement à certains concepts existants, mais va le renouveler le sens. Je vais en dire deux mots tout à l'heure. Sa pensée relève aussi de ce qu'on appelle la Kabbalah. Et c'est là que je vais venir sur un premier enseignement. Alors, il y a deux sens du mot Kabbalah. C'est un verbe, c'est un mot qu'on traduit, qui vient du verbe kabel, qui veut dire recevoir. Et il y a un premier sens de Kabbalah, qu'on a parlé des kabbalistes. Ce sont des maîtres de la pensée de la tradition juive qui ont réfléchi et qui ont reçu une tradition depuis Moïse qui relève de ce qu'on appelle le sens caché, le sens ésotérique du texte biblique. Alors, c'est vrai que de maître à élève, il faut une initiation. Et donc, ce qu'on appelle, dans la tradition juive, dans la manière de penser, le sod, c'est-à-dire le secret, quelque chose qu'on ne peut pas révéler à n'importe qui et n'importe comment. Alors, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les kabbalistes, qui sont les plus grands maîtres de la pensée, qui arrivent au dernier sens ultime du texte révélé dans la Torah. Alors, c'est vrai que ça a ce sens ésotérique, qui va lui-même, qui est issu bien sûr depuis Moïse, mais qui a été transmis de maître à élève sous une certaine manière, de manière à ce que ça traverse l'histoire sans que ça puisse être trop divulgué ni trop popularisé, parce que c'est des éléments qui peuvent être mal compris et on risque précisément de les pervertir, de faire dégénérer l'essence qu'on veut donner. Alors, simplement ce point, c'est que le Maharal a reçu une tradition de kabbaliste, pas directement, mais en lisant des ouvrages qui ont déjà été publiés et qui sont des ouvrages de Kabbalah pure sur le livre de la création. Et il a lu aussi des œuvres de grands kabbalistes, notamment un des plus grands qui existe bien sûr avant lui, parce qu'après la renaissance kabbaliste, ça va être au XVIe siècle en Israël, dans la ville de Safed, les grands kabbalistes de Safed, notamment. Et l'un des plus grands dont il reçoit l'enseignement, pas de son temps, parce qu'il a vécu bien avant, mais de son œuvre, c'est Narmadide. Là aussi, c'est un acronyme. C'est Rabbi Moshe ben Nachman. Donc on l'appelle Narmadide. Comme Maïmonide, c'est Rabbi Moshe ben Maïmon. Donc on a tiré le nom de Narmadide, de son nom de son père Narmadide. Et Maïmonide est le nom qu'on a tiré du nom de son père Maïmon. D'accord ? Bien. Alors Narmadide aussi, c'est un grand maître. Il a vécu il est à Gérone, je crois, en Espagne, et il est mort à Saint-Jean-d'Acre en 1270. Il est né en 1194, donc au XIIe siècle, pas XIIIe siècle. Il y a un autre grand kabbaliste aussi, mais je vais faire ici ma leçon là-dessus, c'est Moïse Cordovero, qui lui est né à Cordoue, et qui est quasiment contemporain du Maharal de Prague. Il a eu son enseignement assez tard, qui est mort aussi à Safed, et qui a effectivement écrit beaucoup de commentaires sur le livre par excellence de la Kabbalah qu'on appelle le Zohar, dont la tradition dit qu'il a été écrit par Shimon Bar Yochai, qui est un des grands maîtres du Talmud, de la tradition juive, et son enseignement a été mis par écrit par un kabbaliste espagnol qui s'appelle Moïse de Léon au XIIIe siècle, et donc c'est cet ouvrage qu'on appelle le Zohar, le livre de la splendeur, qui a été ce livre de la Kabbalah, le livre par excellence de la Kabbale juive, et qui permet, souvent, qui a été l'occasion de multiples commentaires. Alors, il y a un deuxième sens de Kabbalah. Et c'est là, je vous montrer l'application, la manière dont le Maharal, précisément, lit un texte. Alors, il y a une façon de réfléchir qui est particulière. Je disais tout à l'heure que le mot Kabbalah vient du verbe kabel, qui veut dire recevoir. Il y a un enseignement dans le Talmud, d'un traité qu'on appelle le traité des pères, Pirkei Avot, qu'on traduit par traité des principes ou traité des pères, parce que Avot, ça veut dire les pères, et c'est en même temps les maîtres. Le premier enseignement qui apparaît, je ne l'ai pas sous les yeux, qui dit ceci, je l'ai dit en hébreu, j'ai traduit en français. Moshe Kibel Torah Misinaï. Moïse a reçu la Torah, on traduit au Sinaï. Ça vous surprend? Alors, je l'ai la traduction de Maharal. Moïse a reçu la Torah du Sinaï. Oui? Non? Moïse a reçu la Torah du Sinaï. Non ? Ça vous semble cohérent ?
Non.
Pourquoi ?
C'est au Sinaï qui a lieu, c'est pas une personne.
Il y a autre chose quand même. Comment ? Si. Moïse a reçu la Torah du Sinaï. Il n'y a pas quelque chose de bizarre du Sinaï. Donc ça, c'est pas, bien sûr. C'est un lieu. A priori, c'est quoi la Torah? C'est la parole de Dieu. Donc il n'a pas reçu de Dieu. C'est un enseignement important. Il a reçu la Torah du Sinaï. Il est monté sur la montagne du Sinaï, il a reçu du Sinaï. Il faut comprendre, bien sûr, c'est ce que veut dire le Maharal. Et je veux dire, c'est important parce que toute la transmission de la Torah est à ce niveau-là. Et le Maharal a une lecture extraordinaire qui a été reprise ensuite par les grands maîtres du XXe siècle, dont notamment Léon Ashkenazi, appelé Manitou, et repris bien sûr par Jean Assis, dont je reçois cet enseignement également. Mais avant de poser la question, le Maharal est beaucoup plus fin. La question qu'il vient de poser, il la pose lui-même. Pourquoi le texte, qui est le premier enseignement de ce traité des principes, traité des pères, D'abord, c'est anonyme, personne ne le dit, cet enseignement. Pourquoi n'était-on pas plutôt, dit-il, que Moïse a reçu la Torah de Dieu ? Et ça, c'est très important pour montrer la différence entre la réception de la parole de Dieu dans le judaïsme et la réception de Dieu dans le christianisme. Et dire qu'il a reçu la Torah de Dieu, ça paraît plus approprié. De fait, la Torah insiste. Et un autre midrash dit que quand Dieu a convoqué Moïse pour venir recevoir la Torah, on dit que Dieu, il a déposé les tables dans lesquelles étaient écrits les 10 commandements, les 10 paroles, il l'a posé sur le Sinaï, et Moïse est monté sur le Sinaï, il a reçu les tables de loi du Sinaï. C'est déjà plus compréhensible. Il est monté, il a pris les tables, il les a reçues du Sinaï. Ça paraît peut-être plus cohérent quand on lit le texte. Mais il faut aller plus loin. Le Maharal dit, et il lit bien le texte, c'est bien en hébreu, parce qu'en français, ça ne rend pas tout à fait. Moshe, Kibel, Torah, Mi, Sinaï. Le Mi, ça veut dire du, pas au. S'il avait reçu au Sinaï, alors on comprend, c'est Dieu qui lui a donné. Mais c'est marqué, Dieu a donné la Torah, a reçu la Torah du Sinaï. Il est ainsi là-dessus parce qu'il est marqué Mi, Sinaï. Alors, on pourrait dire, et m'a posé une autre question, vous voyez comment on veut creuser pour comprendre un enseignement qui a été reçu, qui a été donné. Il aurait été plus intéressant, dit-il, de dire que Moïse a reçu la Torah de la bouche de Dieu au Sinaï. Dieu a parlé, donc il a reçu de la bouche de Dieu au Sinaï. Très bien. Mais il fait remarquer la suite du verset. À la suite de l'enseignement, je n'ai que la moitié. Le texte dit, la première Mishnah, la première enseignement dit, Moshe kibet Torah Misnaï, Moïse, ou me saura le Hoshua. Et il a transmise à Josué. Ça ne va pas non plus. Où est-ce qu'on voit ça dans le texte de la Torah, que Moïse a transmis la Torah à Josué? Il a transmis à tout le peuple d'Israël. On ne voit nulle part qu'il a transmis à Josué. Voilà comment les rabbins, qui est un enseignement du Talmud, veulent nous faire comprendre ce qui s'est passé lors de la révélation. Et comment ils ont lu cette révélation? Alors, le texte, je vais le lire. Mais on ne lit pas un texte comme il est écrit. Surtout pas. Il ne faut surtout pas le lire comme on croit qu'il est écrit. Parce qu'il n'est pas écrit. Il est dit. C'est la manière de le dire qu'il faut comprendre. Ce n'est pas parce qu'on lit quelque chose, pas la Torah, et le Talmud, ce n'est pas un roman. On l'a lu une fois, on comprend. On fait le tour, on prend un deuxième. Donc, Moïse a reçu la Torah du Sinaï. C'est pas vrai qu'il l'a transmise à Josué, il l'a transmise à tout le peuple. Alors, c'est ici qui est important, parce que tout l'acte de la réception est lié à celle de la transmission. Le Maharal explore toute cette idée-là, c'est important, parce que si c'est tellement important que la Torah a été révélée, a été donnée, ce n'est pas un don, elle n'a été donnée que parce qu'il y a une possibilité de transmission, que la réception n'a de sens que lorsqu'on le reçoit. C'est tellement important de le dire que la Torah, elle parle toujours, fait remarquer le Maharal, parce qu'il existe un rapport entre la Torah, dont le nom signifie enseignement en hébreu, le rod veut dire enseigner aussi, il y a plusieurs mots pour dire enseigner, et c'est le rapport qui existe entre le maître et l'élève. Non, entre le maître et son élève. Et Moïse a transmis la Torah à Josué. C'était son élève. Et c'est la relation qu'il y a entre un élève et son maître. La transmission se fait d'un maître à son élève parce que l'élève a son maître. Et un des enseignements qui suit presque immédiatement dans ce même traité de principes des pères dont je parle à l'instant, c'est précisément qu'il est le sommet le suivant. Fais-toi un maître, lui en français, et acquiert un chaver, un ami. Il faut se faire, il faut se donner, il faut se faire un maître. C'est-à-dire, pour recevoir, pour accueillir un enseignement, il faut un maître, il faut se donner un maître. On n'est pas un maître tout seul. C'est important de le comprendre parce que l'idée que dit le Maharal ici est importante. Il dit, et il faut bien l'entendre, parce que c'est ça qui va secouer les consciences juives et non juives, hein. Dieu n'appartient pas à Moïse. On peut dire, mon Dieu. C'est presque une aberration. On le dit, ça facilite les choses. Non. Dieu n'appartient pas à Moïse. On a présenté la Torah comme une donation, sur le même modèle de la donation d'un héritage. Non. Le mont Sinaï, vous l'avez relevé tout à l'heure, c'est le lieu spécifique où Moïse devait aller. Parce qu'il est celui qui a été capable de recevoir quelque chose du Sinaï et non pas au Sinaï. Ce n'est pas là-bas qu'il a reçu quelque chose, dans un lieu. Non. Ce lieu, c'est le lieu qui est fait pour Moïse. Imaginez que ça veut dire que lorsque j'enseigne, lorsqu'un maître enseigne, c'est pour quelqu'un. Et le seul à qui le Sinaï pouvait donner quelque chose, c'est à Moïse. Le Sinaï, il était fait pour Moïse. D'ailleurs, le texte dans l'Exode dit « Aucun autre membre du peuple d'Israël ne pouvait gravir la montagne, sinon il y mourrait. » C'est pas fait pour... Le Sinaï, il est fait pour Moïse. Lui seul était capable de recevoir la Torah du Sinaï. Il y a donc des élèves qui ont besoin d'un maître, et ce maître, il est fait pour cet élève, pour ce disciple. C'est une relation personnelle. C'est tellement important parce que Moïse, je le disais tout à l'heure, Maharal le dit à sa façon, était celui qui était capable, c'est pour ça qu'on dit Moshe, notre maître, on ne dit pas Moïse, mon maître, notre maître, Moshe Rabbeinu, on dit aussi Maharal Morenu, mon maître, notre maître, on dit au pluriel. Moïse était celui qui était capable d'enseigner à l'ensemble comme s'il le donnait à chacun. Autrement dit, l'enseignement, et ça vous avez remarqué le Maharal, c'est très important qu'il n'y a pas de communion entre le maître et l'élève, entre Dieu et Moïse. Il n'y a pas unité, il y a une séparation. Là, comment, je disais tout à l'heure, la Torah commence par un bête, il ne peut pas y avoir de réception s'il n'y a pas de séparation. Il ne peut pas y avoir accueil de l'autre. Ce n'est pas séparation. Le principe de la création, le principe de la transmission, c'est qu'entre Dieu et le monde, entre Dieu et l'homme, il faut une séparation. Le principe de l'interprétation, c'est la création. Le monde est créé pour être donné à l'interprétation. Donc, le mal relève donc que le mot kibel est fondamental. Il insiste sur le fait que la figure de Moïse n'est pas celui à qui est donnée la Torah, d'autant plus que Moïse ne va entendre que ce qui est à la portée de sa capacité d'écoute et de comprendre cette parole. Il ne recueille pas la totalité de la Torah. Parce qu'après, il y aura la Torah qui va transmettre. Il va transmettre à sa façon quelque chose à Josué. Il va transmettre quelque chose à tout l'ensemble du peuple d'Israël. Et puis ensuite, chacun à son tour va transmettre de génération en génération ce qu'il a entendu d'avant. Et pourtant, on dira, et c'est la grande force des maîtres de la transmission de la tradition juive, que chaque maître rappelle quelque chose qu'il a reçu de son maître et ainsi de suite, jusqu'à Moïse. Et ça, du tout l'a entendu, si vous remontez la chaîne, on l'a reçu de Moïse. Il y a une très belle histoire, un récit qui est raconté dans le Talmud. Un jour, dans la grande yeshiva d'un des plus grands maîtres de la tradition qui s'appelle Rabbi Akiba, Il était en train d'enseigner des milliers d'élèves dans son école qui s'appelle la Yeshiva, dans le Talmudique. Puis il enseignait. Et sur la recommandation de Dieu, qui lui dit, bah, écoute, va dans cette Yeshiva, écoutez les leçons de ce maître. Et il était au front, personne ne voyait, personne ne l'avait reconnu, il ne connaissait pas Moïse, parce qu'il n'était pas de son temps. Moïse le reconnaît, il y a un élève de plus dans la classe, on ne voit pas qui il est, il y a 10 000 élèves, il y en a un de plus qui est au front, on ne voit pas qui c'est. Et puis Rabbi Akiva, il ferme son cours, et puis un des élèves lui pose la question, mais d'où est-ce que tu tiens ce que tu dis ? Halakha, la loi vient de Moïse. Et Moïse entend ça, il dit, mais j'ai jamais entendu ça, j'ai jamais dit ça. Et alors, Moïse remonte chez Dieu, et il lui dit, mais écoute, c'est à lui qu'il fallait donner la Torah, c'est pas à moi. Alors que Dieu lui répond, effectivement, toi tu as reçu ce que tu es capable de recevoir, et lui, Rabbi Akiva, va donner quelque chose que toi tu n'as pas reçu. Voilà la grande leçon d'humilité de Moïse. Quand les maîtres qui viendront par la suite enseigneront quelque chose, ils se réfèrent toujours à l'enseignement de Moïse, quand bien même lui-même ne l'a pas reçu. On dira toujours que l'enseignement vient de Moïse parce qu'il a été transmis la tradition orale qui jamais ne s'est écrite. On verra ça pourquoi demain. Donc, le texte ne dit donc pas que Dieu a donné la Torah, mais que Moïse l'a reçue. C'est pas du tout pareil. Et on sait bien, je le disais tout à l'heure, tout enseignant le sait, que lorsqu'il parle, il parle à chacun des étudiants, des élèves qui sont devant lui, mais chacun leur recevra l'enseignement en fonction de son éducation, de sa psychologie, de ses névroses, de sa culture, de ce qu'il a reçu, etc., etc. Chacun le reçoit dans son prisme personnel. Mais on ne sait jamais la manière dont il va entendre, prêter l'oreille à ce qu'il a entendu. Alors maintenant, premier enseignement. Il y a celui que j'ai reçu d'un autre maître, à travers Armand Bekassi, qui était son maître également, qui est celui de Léon Ashkenazi, qu'on appelle Manitou, parce qu'il était un des grands chefs des éclairs d'Israël de France, on a totémisé Manitou. C'était un grand maître, il a fait le philosophe, mais surtout un grand kabbaliste. Et il a également donné un enseignement à partir de là, parce qu'il a reçu également de ses maîtres et reçu du Maharal. Et donc, c'est très important, c'est que, en montrant ici quelle est la nature de cette transmission, en se référant à ce que disait le Maharal, il y a le sens de la Kabbalah au sens de celui dont on dit qu'il a été, au sens ésotérique du terme, qu'il a été initié. Donc un maître initie son élève, son disciple, à des secrets qu'on ne peut pas dire à deux, ni à trois, ni à dix, mais à un seul, à son maître, à son élève. Alors, c'est vrai que souvent on dit, on ne n'entend et on ne comprend que ce qu'on a reçu par l'oreille, par oui dire. Il y a quelqu'un aussi dans l'histoire de la philosophie, il s'appelle Descartes, qui se méfiait beaucoup de ce qu'on entendait par oui dire. Personne ne s'y pousse. Et ce qu'on entend par les oreilles. Donc, il y a cet aspect-là des choses qu'on entend par « oui, dire, je l'ai entendu dire », c'est très dangereux. Oui, je l'ai entendu dire. Il a dit quelque chose, je l'ai entendu, avec les oreilles. Or, la véritable transmission de maître-élève, ça se fait de bouche à bouche. C'est pas dit, par le bouche à bouche, hein, de bouche à bouche. Pourquoi ? Parce que ce qu'on entend peut être déformé. Parce que ce qu'on entend par l'oreille peut être transformé. On peut avoir une désinformation. Il y a ce qu'on appelle, vous avez tout joué à ça, moi, dans ma jeunesse, au téléphone arabe, vous savez que c'est ce jeu-là où on disait quelque chose à l'oreille du voisin, et le voisin disait au troisième, et c'est au deuxième, troisième, ça faisait le tour, on était à 30 ou 40, et puis à la fin, on demandait à celui qui a entendu, la dernière chose, qui a entendu ce qu'on lui a transmis de l'un à l'autre, qu'est-ce qu'il a entendu ? Mais il disait tout à fait autre chose que ce que le premier avait transmis au second, et ainsi de suite. Parce qu'on dit de bouche à oreille, ça peut être complètement faux, farfelu, de n'importe quoi. On a cru entendre quelque chose, on a cru entendre, et parce que notre esprit ou notre cerveau a fonctionné de telle manière qu'on va déformer ce qu'on a entendu. Or, précisément, l'enseignement que transmet Moïse à Josué, L'enseignement qu'un père transmet à ses enfants, l'enseignement que donne un maître à son élève, c'est de bouche à bouche. Et la différence est très importante parce que c'est comme ça qu'on comprend ce qui s'est passé dans la transmission de maître pendant de génération en génération et qu'on appelle le Talmud et le Midrash. Donc, il faut transmettre de façon scrupuleuse. La bouche doit répéter. Pas comme du psittacisme, pas du perroquet, non. Répéter, c'est la répétition dans la différence. Comment ça, c'est la répéter mot à mot? Non. Répétition scrupuleuse, rigoureuse, veut dire, et c'est important, je reviens ici à ce que le Maharal dit, et ce qui a été repris ensuite par d'autres maîtres, c'est il y a un texte qu'on lit tous les jours, deux fois par jour, qui est la profession de foi, on peut dire des versets qu'on dit tous les jours, le chemin Israël, une prière liturgique juive, qui sont des versets de la Torah, dans lesquels on dit, j'ai dit en hébreu, je traduis, Veshinantam levenera. Tu les enseigneras à tes enfants. Le mot Shinantam veut dire répéter. C'est un donné, on le verra demain, le mot Tana, qui sont les grands maîtres de la répétition. Vous croyez que les grands maîtres de la tradition, c'est des répétiteurs? Oui, répéter. Répéter. Et si tu n'as pas compris, dis le tamil, répète jusqu'à 100 fois. Tu comprendras la 101e fois. Est-ce que vous savez comment l'enfant apprend à parler? Nous parlons maintenant. Est-ce que vous avez souvenir de la manière dont vous avez appris à parler? Personne. Il y a qui savent jouer du piano, j'ai entendu tout à l'heure. Est-ce que ceux qui jouent maintenant se rappellent comment ils ont appris à jouer? On l'oublie. Donc il faut répéter, 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 mais une fois que l'habitude d'avoir appris, d'avoir répété est là, on ne pense plus à tout l'exercice, à l'effort qu'on a fourni pour pouvoir apprendre. Si je me rappelle de mes souvenirs de jeunesse, quand je lisais Aristote, et il disait, je crois dans l'éthique, il y a des convaincs, il dit, quand il parle de l'imitation, de mimesis, il critique ainsi la tête de Platon, on peut dire au passage, et c'est pas l'imitation d'un modèle, le modèle va être dévalorisé dans l'imitation chez Platon, au contraire, l'imitation, pour Aristote, me semble-t-il, c'est de s'élever, imiter, c'est s'élever vers le modèle, et il prend l'exemple des enfants qui apprennent justement parce que les enfants doivent s'élever au modèle qu'on leur donne, que ce soit les parents ou les éducateurs. Répéter, c'est imiter de telle sorte que ce n'est pas répéter, jamais vous voyez un enfant répéter comme le dit le père, la mère ou l'éducateur, c'est littéralement impossible. Il est en train de reprendre, de renouveler dans sa propre façon d'entendre ce qu'il a entendu. Donc c'est de bouche à bouche que la transmission se fait, parce que du point de vue de la transmission, et c'est important de comprendre ce qui se passe ici, c'est on n'est jamais assuré que l'oreille a bien entendu ce que la bouche a dit. D'où les malentendus. Et comme dirait un grand humoriste français décédé de lui qui s'appelait Coluche, s'il y a des malentendus, c'est parce qu'il y a des malentendants. Et donc, quelque part, si on est déjà mal fabriqué pour entendre, on ne peut pas entendre ce que l'autre est en train de dire. D'accord ? Donc, il faut comprendre que le fil conducteur de la transmission, c'est une parole. Et la parole se passe par la bouche. On peut avoir les oreilles bouchées et entendre ce que l'autre dit. On peut avoir les yeux fermés et ne pas voir et voir ce que les autres voient de leurs propres yeux. Armand m'a raconté que l'un de ses maîtres était extraordinaire, celui qui, parmi ses grands maîtres au Maroc, il disait que, oui, Eliezer, il aime bien le citer de temps en temps, il était aveugle. Mais il connaissait les textes par cœur. Il ouvrait une page de Talmud et il savait exactement ce qui était écrit. Il ne voyait pas. À des points que Armand m'a raconté souvent, que lorsque lui, il lisait le texte, son maître qui voyait, attends, tu te trompes, ce n'est pas tel mot qui est écrit là. On comprend que ce qui se passe dans la transmission, c'est de bouche à bouche. Pas de bouche à oreille. Aussi, il faut comprendre que la bouche est nécessaire parce que quand on entend, et c'est la déformation des philosophes, l'entendement est devenu la raison. À que l'oreille, en hébreu, écouter, c'est dit chamoi. Entendre, comprendre, c'est pas avec l'entendement, c'est pas avec la raison. Pas. L'erreur à faire, c'est de croire qu'il y a une compréhension intellectuelle. C'est là une des différences fondamentales entre la tradition, la transmission juive, que fait remarquer le Maharal, qui comprend les Haggadot et les récits de la Torah à travers cela, comprendre la parole de Dieu, c'est les entendre pour les interpréter à notre manière, non pas à travers des paramètres subjectifs. Il n'y a pas de subjectivité, il n'y a pas des caractères, ce n'est pas lié à des tempéraments. C'est lié à une capacité d'accueillir et de recevoir. Si quelqu'un n'est pas à la mesure d'écouter, de capter et d'entendre ce qu'il est en train de dire, il n'est pas prêt à recevoir l'enseignement. Ce n'est pas l'intelligence qui comprend. Ce n'est pas l'entendement, la raison qui comprend. C'est, on dit en hébreu, la neshama, ce qu'on appelle l'âme. L'âme humaine. L'âme, c'est autre chose que l'intellect. C'est autre chose que la raison. C'est autre chose que la faculté d'intuition. C'est autre chose que toutes les facultés de l'esprit. Ce n'est pas l'entendement, ce n'est pas l'intelligence qui comprend. C'est l'âme. Alors, en termes juifs, on dira, c'est également l'âme juive, on appelle ça l'intelligence du cœur. Voilà. C'est le cœur qui comprend, ce n'est pas l'intellect. Nous sommes formatés à l'intellectualisme, à la raison qui connaît, qui comprend. Ce n'est pas du tout ça dans la science juive. À tel point que le lieu de l'intelligence dans la tradition juive, et Maïmonide le dira plusieurs reprises, c'est le cœur, enfin, l'organe du cœur. Le cœur, c'est la capacité de recevoir un enseignement. Le cœur, ce n'est pas l'organe, c'est pas ça le cœur. Le cœur, c'est peut-être dans la tête, c'est la capacité qu'on a d'accueillir, de recueillir un enseignement. Donc, il faut comprendre que la transmission de bouche à bouche, à travers l'oreille, c'est une qualité qui relève d'un maître, et quand bien même l'entendement ne comprendrait pas, cette transmission peut se faire quand même et elle traverse ainsi les générations de telle sorte que ce qui est entendu par l'oreille, on dirait, c'est l'oreille d'une âme. Alors l'âme, je ne vais pas faire un débat là-dessus, ce serait trop vaste. On dit dans la tradition juive que toutes les âmes, toutes les âmes d'Israël étaient présentes au Sinaï. Il y en avait 600 000. Et les Juifs ne sont que des reprises dispersées de ces âmes qui étaient présentes entièrement dans l'entièreté au Sinaï. Et les Juifs, quand ils transmettent, ne font que transmettre ce que l'âme dans sa totalité avait reçu en tant que tel, au Sinaï. Autrement dit, il faut comprendre ici, ce n'est pas n'importe quoi qui est transmis, c'est que ça obéit à deux règles. La première, c'est que ce qui a été dit par la bouche ne s'adresse pas à la bouche qui transmettra à son tour quelque chose, c'est la bouche qui transmet, c'est vrai. Il y a des malentendus. C'est-à-dire, quelque part, l'oreille peut ne pas bien entendre l'oreille. Entendez bien, l'oreille de l'entendement. Donc, il faut bien comprendre, ici, dans ces derniers points, c'est que Moïse est celui qui a su, d'une manière tout à fait exceptionnelle, c'est pour ça que c'est Moïse, il était dans cette attitude de réceptivité active. On dit dans la Torah qu'il était l'homme le plus humble. Et c'est dans l'exacte mesure où l'homme se présente comme cette passivité dont parle Lévinas, c'est une passivité, peut-être pas inactive, une passivité comme réceptacle de la parole de l'autre. Ça, c'est celui qui est capable de recevoir la parole du Sinaï. Donc ça, c'était le premier point. Il y aurait beaucoup de choses encore à dire, ne serait-ce que... Vous savez que lorsque ça demandera à être élucidé, je vous donne simplement une indication, que lorsque Moïse est descendu du Sinaï, Il a apporté l'étape de la loi au peuple. Il l'a remontré. Et qu'est-ce qu'il voit au bas de la montagne? Le veau d'or. En fond, comme disent certains kabbalistes, ce que Dieu, que Moïse a apporté, a donné aux Hébreux, c'est la cassure des tables. Donc il a vu, donc jamais, enfin, on dit les Hébreux, c'est vrai qu'ils ont vu quelque chose, ils ont entendu les deux premières paroles sur les 10 qui ont été données, mais quand Moïse est venu leur apporter la totalité, si je peux dire, des tables et l'ensemble des commandements, qui vont suivre, bien sûr, eh bien, il a brisé les tables. Nous n'avons reçu que des tables brisées. Et ça, c'est important ici, il faudrait développer cette idée à une autre fois, mais c'est important de comprendre ici, c'est que c'est dans la brisure des tables que se fait la transmission. Il faut casser quelque chose, c'est important ici de le dire, mais je n'ai pas toujours l'occasion de multiplier ainsi les interprétations. Alors, un point, un deuxième point du Maharal, qui conforte un peu ce que je viens de dire, qui est un deuxième point. Il y a un très bon midrash, une interprétation qui est la suivante, qui est donnée dans le Talmud de Jérusalem. Lorsque, alors c'est une autre représentation, il n'y a pas d'opposition en tant que tel, c'est une autre manière de dire. Comment le Maharal a interprété ce texte? Le texte dit que là, Dieu va remettre les tables à Moïse et voilà, ça se fait comme ça. Dieu à Moïse. Vous voyez les mains ici? D'accord? Vous voyez l'occupation. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez une main ici. On dirait ça Tefar, il y a l'équivalent d'un point. Enfin, voilà, les mains. Et là, je ne peux pas aller plus loin. D'accord? Les tables, quand je vous donne quelque chose, prenez comme ça. Vous allez jusqu'au bout. Entre les deux, il y a quoi? Un vide. Dieu, encore une fois, Dieu et l'homme ne se rencontrent pas. C'est tellement important qu'on ait dit, ce que ça veut dire. Quand Dieu donne les tables, Moïse est là, il les prend. Entre Dieu et Moïse, il n'y a qu'un vide. Au milieu. Ce thème de milieu, il est un des concepts que le Maharal va introduire. On appelle ça Emtsa. Ça fait des pages et des pages. Et André Neher, justement, va réintroduire et le réinterpréter. En fait, c'est un ouvrage qui s'appelle Le Puits de l'Exil. Donc, au milieu, il y a un vide. Le milieu, c'est un vide. Il y a entre Dieu et l'homme un vide. Ils ne se touchent pas. Il n'y a pas l'homme et Dieu. Ils ne peuvent pas se toucher. Il y a une distance infranchissable. Autrement dit, vous comprenez ici. Le Maharal, lorsqu'il explique, lorsqu'il veut comprendre ce midrash, il dit qu'il y a entre la table, entre Moïse et Dieu, un espace vide qu'il va, et c'est ça qu'il a vu, qu'il a compris dans ce midrash, pas, d'un côté les tables sont occupées par Dieu, de l'autre côté par Moïse, et au milieu, entre les deux palmes, dans les deux mains, il y a un vide du midrash. Il veut comprendre ce vide. Le Maharal est le premier à avoir remarqué. Donc, les interprétations aussi, président. Mais c'est le premier à avoir remarqué, dit André Neher, que je voudrais citer sans le paraphraser. Il dit ceci, que c'est dans l'espace vide qu'il a aperçu une image fulgurante qu'il explique ainsi. Beaucoup ont relevé la preuve, c'est que le Midrash le dit, beaucoup ont relevé. Mais ce que Maharal a innové dans cette lecture, et vous voyez qu'il fait un travail de réflexion, il reprend complètement l'image, si on peut dire, de ce que les rabbins sont en train d'enseigner. Il dit que c'est ça l'essence de l'alliance. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance? C'est pas l'un avec l'autre. Une alliance, on trouve l'unité et l'union. Non. En hébreu, on dit faire alliance, c'est karet et daberit. On coupe l'alliance. De ce côté, ou on coupe, ou on unit. En précisément le bête du Bereshit. C'est la première alliance, c'est ça l'alliance. Ça va être la deuxième alliance, va être faite au Sinaï. Et c'est cela dont le fait remarquer le Maharal. Il a pensé que cette association, cette alliance, n'est rendue possible que par le vide qui sépare Dieu de l'homme. Il n'y a d'alliance que dans la séparation. Il n'y a d'alliance que dans la création. Il n'y a d'alliance que dans la séparation. Bara, bara, qui veut dire Bereshit bara Elohim en hébreu, bara veut dire créer. Créer, c'est séparer. D'ailleurs, Lévinas reprend un peu cette idée autrement. Il dit, quand vous parlez, parler sépare. Mais il relie en même temps. Pour relier, il faut être séparé. Pour qu'on puisse parler, il faut qu'il y ait un vide entre nous. Autrement dit André Néer, cet espace illustre l'essence de l'alliance parce qu'il en symbolise l'acte, l'entrain de se faire de l'alliance, la communication à l'instant même où elle s'établit. Et sans cet élément intermédiaire, en hébreu on appelle ça emtsa, le milieu, l'alliance ne serait pas, la communion entre l'homme et Dieu serait illusoire. Pour que la révélation ait lieu, il faut ce milieu, il faut qu'il y ait un espace vide. Et c'est sur le vide que se construit l'alliance, que s'édifie l'alliance. C'est pas rien, un vide. Or, c'est pas par hasard que tous les vides, tous les blancs, là où il n'y a rien écrit dans la Torah, c'est là que a lieu l'interprétation. Vous savez que lorsqu'on est en hébreu, vous voyez dans les textes, les lettres ne sont jamais reliées. C'est impossible, sauf qu'on a écrit aujourd'hui en cursive, une manière d'écrire, mais les lettres sont séparées. Il n'y a pas de lien entre les lettres. Les lettres elles-mêmes, elles sont liées entre elles. La formation des lettres, je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais il faut comprendre que les lettres elles-mêmes sont composées d'autres lettres. Mais les lettres entre elles pour faire des mots sont séparées. En plus, il n'y a pas de voyelle. Mais c'est la difficulté. Et c'est pour ça qu'on peut le lire de multiples façons. Donc il faut comprendre ici que le rapport, dit André Néer, ne s'établit entre elles, entre les espaces, entre les hommes, l'homme et la femme, l'homme et Dieu, pardon, à partir d'un vide initial qui les sépare les unes des autres, qui établit entre elles une zone, on dirait, neutre. Voilà. C'est ni l'un ni l'autre. Et c'est pourquoi la notion de milieu est aussi au centre. Centre. Milieu est au centre. Mais il y a des milieux, parce qu'il y a deux extrémités. Mais il faut qu'on tienne, il faut que l'homme et Dieu se tiennent, mais ils ne se tiennent pas la main. Il ne faut pas se tenir la main. Et c'est important, l'homme se tient à distance de Dieu. Il n'y a pas d'union. L'homme ne peut pas prendre la main, Dieu ne peut pas prendre la main de l'homme, et l'homme ne peut pas prendre la main de Dieu. Et ça, c'est au centre de toute la réflexion juive. Un peu plus loin, il dira, et c'est pour ça que je vais reprendre cette idée, dans le même livre, une séparation est nécessaire entre Dieu et l'homme, un vide intermédiaire qui puisse maintenir à distance l'un et l'autre les partenaires antagonistes. Au lieu de neutraliser la relation, comme il le fait entre les hommes, le vide fonde la relation entre l'homme et Dieu. Et comme le veut le Midrash, le Maharal donne une lecture originale entre les deux palmes intermédiaires vides, et il reprend ici, entre Dieu et Moïse, entre Dieu et l'homme, ce vide, c'est l'alliance elle-même. C'est le face-à-face entre Dieu et l'homme, c'est le face-à-face entre l'homme et son prochain, c'est par là qu'il y a dialogue, c'est par là qu'il y a communication. Il n'y a de communication que lorsqu'il y a un vide qui nous sépare. Un dialogue, une parole échangée, adressée à l'autre, ne peut se faire que s'il y a un vide. Et ce vide, on ne peut pas le combler. Dans l'histoire, le vide a été comblé. Le christianisme vient d'être. Et c'est un point de rupture entre l'homme et Dieu, il y a discontinuité. Entre l'homme et Dieu, il y a continuité dans le christianisme catholique. Et c'est un point de rupture, parmi d'autres, avec le judaïsme. Alors, c'est vrai que, pourtant, ici, c'est important de le comprendre. J'ai encore un mot à dire ici. C'est que, dans cette perspective de la transmission qui est donnée ainsi, pour comprendre ce qui a lieu entre un maître et un élève, entre Dieu et Moïse, entre Moïse et son peuple, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il faut que ça passe. Et quelque chose peut être transmis et passé d'un maître à l'autre, d'un maître à un élève, d'un élève qui devient maître à son tour. Ça ne peut se faire que s'il y a un passage en creux, que c'est un passage à vide. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lieu commun entre les deux. Il y a, comme dit Lévinas, une relation asymétrique entre le maître et l'élève, entre Dieu et l'homme, entre Dieu et Moïse. Il y a une relation asymétrique. On ne peut pas être sur le même plan. On ne peut pas être au même niveau. Il n'y a pas de symétrie. Il y a une relation asymétrique toujours. Et c'est dans cette asymétrie qu'il y a véritablement dialogue et échange. Et on ne peut pas comprendre sinon pourquoi c'est si important. Et je vais terminer ici avec ce que dit Lévinas de ce point de vue-là. Il dit qu'il y a de nouveau la tradition qui a été transmise. Non seulement qui a été transmise, ne peut avoir lieu que s'il y a quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau et qui n'a pas déjà été dit la 101e fois? Répétez la 101e et nouvelle par rapport à la 100e. Et Lévinas dira, la tradition ne se renouvelle que là où, au préalable, elle a été reçue. Si on ne reçoit pas une tradition, si on ne reçoit pas un enseignement d'un maître, si on n'est pas capable de le recevoir, si on n'est pas en état de réception, de réceptivité, d'accueil de la différence, d'accueil de l'autre, d'accueil d'un enseignement qui n'est pas venu de ma propre pensée, eh bien, il est évident ici qu'il n'y a pas de renouveau. Ajouter quelque chose, enrichir la tradition, ajouter quelque chose qui n'a pas été dit, pourtant transmis depuis génération, depuis Moïse, mais que lui-même ne l'a pas explicitement dit, et que les rabbins viennent inventer comme un ridouche, comme quelque chose de nouveau, eh bien, c'est ce qui fait précisément la fécondité de l'enseignement. La fécondité, c'est inscrire un nouveau germe, un nouvel enseignement dans ce qu'on a été capable de recevoir. Je crois que c'est important de le dire. Comme disait Ménard, la tradition ne se renouvelle que là où au préalable a été reçue. Donc si une tradition n'a pas été reçue, on ne peut rien y ajouter et c'est même très dangereux. C'est dangereux parce que ceux qui n'ont pas étudié, ceux qui n'ont pas reçu la tradition, au nom de quoi voudraient-ils ajouter quelque chose au texte? Au nom de quoi et de qui pourraient-ils ajouter quelque chose dans un livre, dans un texte de Torah, alors qu'ils n'ont pas reçu cette tradition? C'est vrai que, je disais tout à l'heure, on peut apporter des grilles de lecture étrangères pour comprendre, expliquer sociologiquement, psychologiquement, psychanalytiquement beaucoup de choses dans la Torah. Et pour nous, aujourd'hui, c'est intéressant. Et comme dit Armand souvent, il me dit, il faut traverser l'histoire. Il faut que l'histoire nous traverse, mais il faut la dépasser. Il faut être capable de recevoir les enseignements de maîtres de sciences de l'homme, mais les traverser, mais pas s'y arrêter. Et il faut recevoir des enseignements des maîtres et des grands penseurs, mais pas s'y arrêter. Parce que quand on lit les philosophes, sur Platon, Aristote, Kant, Descartes, etc., ou Hegel, et bien, il est évident que la pensée, elle sort, elle surgit, elle est fabriquée, elle réfléchit à partir d'eux-mêmes. La transmission juive est à l'opposé de cette manière de penser. La pensée talmudique, on la verra demain, et je dirais dans notre occasion, la pensée talmudique, la pensée juive, elle est une pensée multiple. Le maître enseigne la multitude. Il n'enseigne pas à une foule, il enseigne la multitude. Il enseigne la pluralité. La parole, elle est comme un fer, dit le prophète, qui jaillit, qui tape un rocher, d'où jaillit multiples éclats. Et bien, ce sont ces éclats ici qui sont ces étincelles de sens, qui sont produits précisément par le fait que l'on frappe le texte, on s'y confronte et qu'on fait sortir, jaillir un sens qui n'était pas. Il n'y a pas d'implicite. Il n'y a pas quelque chose qui. Le sens n'est pas caché derrière le texte. Il n'y a pas l'implicite du texte. On va expliquer, déplier ou découvrir un texte. Non, on ne découvre pas. Il n'y a pas de découverte dans la tradition juive. On ne découvre pas. On n'a pas la couverture. On voit qu'est-ce qu'il y a en dessous, qu'est-ce qui est caché. Non, on ne joue pas juste cache-cache, c'était derrière, t'es caché, qu'est-ce qui se passe. Non, il faut comprendre que la tradition juive, et c'est ainsi que le Maharal l'a compris, quand il a rassemblé l'ensemble de son œuvre, alors qu'il n'a pas voulu, il a voulu faire tout le commentaire des agadot, des récits que rapportent les rabbins, mais il n'a pas eu le temps, il est mort à 13h, certes, mais un peu tard, il n'a pas eu le temps de le terminer. Il faut comprendre ici que l'étude se fait dans la multitude, dans la foule. L'étude ne se fait pas en solitaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas un maître dans la tradition juive qui soit philosophe. Il n'y a pas une pensée de Rabbi Akiba, il n'y a pas une philosophie de Rabbi Ishmael, il n'y a pas une pensée de Maharal de Maïmonide. C'est aussi, c'est vrai qu'ils ont écrit des œuvres aussi philosophiques et importantes. Mais l'enseignement des maîtres de la tradition, il féconde un texte plurivoque. Il féconde un texte d'où jaillit une multitude d'interprétations, d'où le conflit des interprétations. Je préfère dire, plutôt conflit d'interprétation à la manière de Ricoeur, parler, comme dit Armand Bécassis, un dialogue entre les interprétations. Dialogue, au sens grec, mais au sens juif du terme, ça veut dire, moi j'ai c'est pas un dialogue au sens platonicien, c'est pas Socrate que met en scène Platon, parce qu'il est seul avec des. Il est mis en scène, il n'a jamais enseigné ce que dit Platon, peut-être encore dans le Phédon, parce qu'il était encore à ce moment-là, mais tous les textes de Platon qui met en scène Socrate, Socrate n'est plus là. C'est comme si on mettait tout le temps Moïse en confrontation avec un autre rabbin. Non, Moïse est tout le temps là, parce qu'il s'adressait à la multitude. Il est tout le temps là, dans la réflexion que donnent les rabbins, en disant « Alaha que Moïse Sinaï, quand ça a été donné par Moïse au Sinaï, et c'est à nous de savoir pourquoi les rabbins ont exprimé telle ou telle chose de cette manière-là. C'est la manière de dire qui est importante, ce n'est pas le fait de le dire. C'est important de comprendre ici, et le Maharal explore toute cette idée, c'est que Moshe Kibet Torah mi Sinaï, il l'a reçu du Sinaï, c'est dans la capacité que l'homme a de recevoir une parole multiple, dite par un Dieu qui est un, ça veut dire un, mais unique, il est unique dans l'exacte mesure où son côté unique, c'est qu'il n'a pas pu parler ainsi à tout le monde. Alors, c'est vrai que cette parole-là, elle traverse ce qu'on appelle la Torah, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu avait à l'esprit, je n'en sais strictement rien. Tout ce que c'est, au mieux, et c'est déjà beaucoup, c'est ce qu'il a dit dans la Torah. C'est ce qu'il a dit aux prophètes, c'est ce qu'il a dit à travers l'enseignement de nos maîtres. Alors, pour terminer, je conclurai de ce point de vue-là, pour dire qu'effectivement, dans l'interprétation, il y a toujours quelque chose d'essentiel. Pourquoi ? Parce que, comme le dit le Maharal, Moïse a été capable de recevoir quelque chose parce que c'est à la hauteur de sa capacité de recevoir, de sa capacité d'écoute, c'est bien parce que l'homme est au centre et Dieu est extérieur. C'est l'homme qui est au centre. C'est pas l'égoïsme, c'est pas l'égocentrisme, c'est pas la terre est au centre. Non, au centre, ça veut dire au milieu. Il pourrait être au milieu, il fait trois. Le milieu, c'est le troisième. Et le Maharal fait remarquer, c'est tout le développement qu'il fera dans le puits de l'exil, qu'on reprendra André Neher, le milieu, c'est le troisième. Le milieu, c'est le troisième. L'image qu'il donne, une des interprétations que le Maharal donne de ce troisième, c'est Abraham, Isaac, Jacob. Abraham ne suffit pas. Isaac ne suffit pas. Et nous sommes les descendants de Jacob, devenu Israël. Or, précisément, c'est dans cette filiation entre ce qu'on appelle les pères, les trois patriarches, c'est pas par hasard que le titre même de ce traité qu'on appelle le traité des pères s'appelle Avot, parce que c'est l'enseignement d'un père à ses enfants, c'est l'enseignement d'un maître à ses élèves, d'une chaîne à l'autre. C'est Jacob dont on est descendant, c'est celui qui est au milieu, Abraham, Isaac et Jacob. C'est ce milieu-là dont nous sommes les descendants, c'est-à-dire que le peuple issu, les enfants issus de Jacob, devenus Israël dans le combat avec l'ange, précisément, je crois que Lévinas a dit quelque part, que le Talmud, voilà ça, le Talmud, c'est toujours la lutte avec l'ange. Vous connaissez un peu ce récit de la Genèse dans lequel Jacob, un soir, la veille de sa rencontre avec Ésaü, son frère, son ennemi juré qui est le tuer, eh bien, il a ce rêve, et pas le rêve, la nuit se passe dans l'exil, la nuit se passe la situation se passe dans la nuit, et toute la nuit, il combat avec un homme, c'est marqué Ish, un homme, et on sait que c'est un ange, c'est le représentant d'Ésaü, la lutte de Jacob avec l'ange. Et il va le blesser à la sortie, à la fin de la nuit, le combat cesse, c'est la fin de l'exil, donc quand on lit ce texte dans l'histoire. À la fin, Jacob est blessé, mais l'ange, avant de partir, il lui dit « Donne-moi une bénédiction. » Et le Maharal dit, ça a été repris par Antonier, que cette blessure que l'ange inflige à Jacob, c'est le fait que Jacob après sera boiteux, c'est une façon de parler, il l'a blessé à l'endroit de sa fesse, ce qui l'a rendu fragile, à savoir la relation, disons, vague de la cuisine, on appelle la sexualité, il l'a blessé à un point de faiblesse, et il l'a affaibli à ce point, mais l'ange qui va partir lorsque le soleil apparaît, eh bien, il demande à Jacob de le bénir. Eh bien, Maharal fait remarquer, et en train de le faire, le relève aussi, c'est que là où le juif est blessé, sa blessure profonde qui laissera une trace, mais qui sera en même temps la marque d'une bénédiction. Cette blessure de Jacob qui va devenir Israël est née de la lutte précisément avec l'ange qui va le blesser, mais qui va lui donner une bénédiction. Et c'est à partir de là que Jacob va recevoir un nouveau nom, Israël. Et nous sommes les enfants d'Israël, de Jacob, mais surtout d'Israël, celui qui est capable d'affronter le monde non-juif, d'affronter l'idolâtrie, d'affronter et de combattre le paganisme, c'est toutes les autres formes, toutes les autres valeurs dans lesquelles sont enfouis l'ensemble des étincelles, comme dit le kabbaliste, des étincelles de sainteté, des étincelles de sainteté dont les juifs, dans le peuple juif en exil, a pour objet, pour finalité, de récupérer pour les unifier. Je crois que c'est ça le sens que nous donne finalement l'enseignement de nos maîtres, et le Maharal le dira à sa manière, réunifier l'ensemble des valeurs qui sont séparées, qui sont dispersées dans l'ensemble des nations, pour qu'on puisse faire l'unité et reconnaître que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de tous les hommes. Et lorsque Jacob, sur son lit de mort, va demander à ses enfants de venir près de lui, il veut les bénir, et les enfants d'Israël lui disent « Shema Israël, Hashem Elohim Hashem Echad » Écoute Israël, donc c'est Israël, le Jacob, notre Dieu, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il est Dieu un, il est unique. Nous sommes tes enfants, mais sache que notre Dieu, ton Dieu et notre Dieu, c'est le même, nous sommes un. C'est exactement c'est le Midrash qui le dit, mais la phrase Écoute Israël, notre Dieu, Dieu est un, il est unique, c'est Moïse qui va le dire aux enfants d'Israël. Il va s'adresser à Israël en tant que peuple, et non pas comme Jacob à ses enfants, ou ses enfants par rapport au père. Il va dire, écoute Israël, notre Dieu est un Dieu un. C'est celui qui est capable d'unifier et de pacifier les conflits qu'il y a chez vous. Un Dieu qui va unifier et conduire à la paix. Merci.